Quoique la comparaison entre la monarchie héréditaire et la monarchie élective faite par l'abbé Sieyès soit inutile, parce que le système représentatif les rejette toutes deux, cependant, si j'en faisais moi-même la comparaison, je déciderais d'une manière contraire à la sienne. Les guerres civiles qu'ont occasionné les droits héréditaires contestés sont plus nombreuses et ont été plus terribles et plus longues que celles occasionnées par les élections. Toutes les guerres civiles de France furent causées par le système héréditaire. Elles furent produites ou par des réclamations d'hérédité ou par l'imperfection de la forme héréditaire qui admet des régences ou des monarchies à la lisière. Quant à l'Angleterre, son histoire fourmille des mêmes malheurs. La contestation pour la succession entre les maisons d'York et de Lancastre dura un siècle entier, et d'autres, du même genre, ont eu lieu depuis cette époque. Celles de 1715 et de 1745 étaient de la même nature. La guerre de succession pour la couronne d'Espagne arma presque toute l'Europe. Les troubles de la Hollande viennent de l'hérédité du statut d'air. Un gouvernement qui s'appelle libre, avec une place héréditaire, ressemble à une épine dans la chair qui produit une fermentation qui tâche de la faire sortir. Je pourrais aller plus loin et attribuer toutes les guerres étrangères à la même cause. C'est en ajoutant le mal de l'hérédité à celui de la monarchie qu'on crée un intérêt permanent de famille dont les objets constants sont la domination et le revenu. La Pologne, quoique monarchie élective, a eu moins de guerres que les monarchies héréditaires. Et c'est le seul gouvernement qui ait fait un essai volontaire, quoique peu considérable, pour réformer la condition du pays. Après avoir jeté un coup d'œil rapide sur quelques défauts des systèmes anciens et héréditaires de gouvernement, comparons-les avec le nouveau ou avec le système représentatif. Le système représentatif prend la société et la civilisation pour base, la nature, la raison et l'expérience pour guide. L'expérience de tous les siècles et de tous les pays a démontré qu'il est impossible de contrôler la nature dans la distribution des facultés spirituelles. Elle les accorde comme il lui plaît. Quelle que soit la règle selon laquelle elle les répand en apparence parmi les hommes, cette règle est un secret pour l'homme. Il serait aussi ridicule de tenter de fixer l'hérédité de la beauté que celle de la sagesse. Quelle que soit la sagesse, c'est comme une plante sans semence. On peut la cultiver quand elle paraît, mais on ne saurait la produire à volonté. Il y en a toujours une quantité suffisante à toutes les fins dans la masse de la société, mais elle n'a pas de point fixe. Elle varie continuellement. Aujourd'hui, elle paraît dans un homme, demain dans un autre, et elle a probablement passé successivement dans toutes les familles de la terre qu'elle a aussi successivement abandonnées. Comme c'est là l'ordre de la nature, l'ordre du gouvernement doit nécessairement le suivre, autrement le gouvernement dégénère, comme nous le voyons, en ignorance. C'est pourquoi le système héréditaire répugne autant à la sagesse humaine qu'aux droits des hommes et est aussi absurde qu'il est injuste. Comme la République des lettres engendre les meilleures productions littéraires, en donnant au génie une chance universelle, de même, le système représentatif de gouvernement est conçu pour produire les meilleures lois en recueillant la sagesse partout où elle se trouve. Je ris en moi-même quand je considère combien la littérature et les sciences seraient dégénérées si on les avait rendues héréditaires. Et je porte les mêmes idées dans les gouvernements. Un gouverneur héréditaire est aussi absurde qu'un auteur héréditaire. Je ne sais pas si Homère ou Euclide avaient des enfants, mais j'ose assurer que s'ils en avaient et qu'ils eussent laissé leurs ouvrages imparfaits, ces enfants ne les auraient pas achevés. Avons-nous besoin d'une plus grande preuve de l'absurdité du gouvernement héréditaire qu'en considérant les descendants de ces hommes autrefois célèbres dans un genre quelconque? Se trouve-t-il presque un exemple où leur caractère n'ait point été l'inverse de celui de leur père? Il semblait que le courant des facultés spirituelles avait coulé aussi loin que possible dans certains canaux, qu'il avait ensuite abandonné sa course pour entrer dans d'autres. Que le système héréditaire est donc irraisonnable, puisqu'il établit des canaux de pouvoir dans lesquels la sagesse refuse de couler. En continuant cette absurdité, l'homme est perpétuellement en contradiction avec lui-même. Il accepte pour roi, pour magistrat suprême ou pour législateur, un homme qu'il ne voudrait pas choisir pour huissier. Il paraît que les révolutions produisent des talents et du génie, mais ces événements ne font que les mettre en avant. Il y a dans l'homme une masse d'esprit qui dort et qui, si elle n'a jamais d'occasion d'être mise en mouvement, descend ainsi dans le tombeau avec lui. Comme il est avantageux à la société que toutes ses facultés soient employées, la construction du gouvernement doit être telle qu'elle puisse mettre au jour, par une opération régulière et tranquille, toute cette étendue de capacités qui ne manque jamais de paraître dans les révolutions. Cela ne saurait avoir lieu dans l'état insipide du gouvernement héréditaire, non seulement parce qu'il empêche cette capacité de paraître, mais parce qu'il tente à engourdir. Quand l'esprit d'une nation est assujetti à quelques superstitions politiques de son gouvernement, telles que la succession héréditaire, il perd une grande partie de sa vigueur par rapport aux autres sujets ou objets. La succession héréditaire exige la même obéissance à l'ignorance qu'à la sagesse, et quand une fois l'esprit est amené à payer indistinctement ce respect, il s'abaisse au-dessous du niveau de l'homme pensant. Il n'est plus propre qu'à être grand dans les petites choses. Il se trompe lui-même et étouffe les sensations qui tendent à lui faire découvrir la fourberie. Quoique les anciens gouvernements nous offrent un misérable tableau de la condition de l'homme, il y en a un, surtout, qui n'entre point dans la description générale. C'est la démocratie d'Athènes. On voit plus de choses à admirer et moins à blâmer chez ce peuple grand et extraordinaire que dans tout ce que l'histoire nous présente. M. Burke est aussi peu instruit des principes constituants du gouvernement qu'il confond la démocratie et la représentation. La représentation était une chose inconnue dans les démocraties anciennes. La masse du peuple s'assemblait et faisait des lois, pour parler grammaire, à la première personne. La simple démocratie n'était autre chose que la maison commune des anciens. Elle signifie la forme ainsi que le principe public du gouvernement. Lorsque ces démocraties augmentèrent en population et se répandirent sur une plus grande étendue de territoire, la simple forme démocratique devint impraticable. Et comme le système de représentation était inconnu, il s'ensuivit qu'elles dégénérèrent en monarchie ou qu'elles se fondirent dans celles qui existaient déjà. Si l'on avait alors compris le système représentatif, comme aujourd'hui, il n'y a pas lieu de croire que ces formes de gouvernement, que l'on appelle aujourd'hui monarchiques ou aristocratiques, eussent jamais existé. Ce fut le manque de quelques méthodes pour consolider les parties de la société lorsqu'elles devinrent trop nombreuses et trop éparses pour la simple forme démocratique, ainsi que la condition isolée des bergers et des pâtres dans d'autres parties du monde, qui fournit une occasion d'élever ces formes de gouvernement contraires à la nature. Comme il est nécessaire de balayer les ruines des erreurs sous lesquelles le sujet du gouvernement a été enseveli, je vais continuer mes remarques sur quelques autres. Les courtisans et les gouvernements avec des cours ont toujours eu la ruse politique d'invectiver une chose qu'ils appellent républicanisme. Mais ils n'ont jamais tenté d'expliquer ce qu'était le républicanisme. Examinons un peu ce que c'est. Les seules formes de gouvernement sont la démocratique, l'aristocratique, la monarchique et ce qu'on appelle aujourd'hui la représentative. Ce que l'on appelle république n'est pas une forme particulière du gouvernement. C'est seulement le caractère du but ou de l'objet pour lequel le gouvernement doit être établi et auquel il doit être employé. Res publica, les affaires publiques, ou le bien public, ou selon la traduction littérale, la chose publique, c'est un mot d'une bonne origine qui a rapport à ce qui doit être le caractère et l'emploi du gouvernement, et dans ce sens il est naturellement opposé au mot monarchie qui a une origine vile et basse. Ce dernier veut dire le pouvoir arbitraire dans un seul individu, dans l'exercice duquel son objet n'est pas la res publica, mais son intérêt particulier. Tout gouvernement qui n'agit pas selon le principe d'une république, ou, pour parler en d'autres termes, qui ne fait pas de la chose publique son seul et unique objet, n'est pas un bon gouvernement. Un gouvernement républicain n'est rien autre chose qu'un gouvernement établi et dirigé pour l'intérêt public, individuellement et collectivement. Il n'est pas nécessairement lié avec aucune forme particulière, mais il se lie plus naturellement avec la forme représentative, parce qu'elle est mieux conçue pour assurer les fins pour lesquelles une nation fait la dépense de le soutenir. Différentes formes de gouvernement ont affecté de prendre le nom de république. La Pologne s'appelle République, quoique ce soit une aristocratie héréditaire, avec ce que l'on appelle une monarchie élective. La Hollande s'appelle République, et c'est principalement une aristocratie avec un statut d'air héréditaire. Mais le gouvernement de l'Amérique, qui est entièrement selon le système de représentation, est la seule république réelle qui existe aujourd'hui. Son gouvernement n'a point d'autre objet que les affaires de la nation, et conséquemment, c'est dans toute l'étendue du terme, une république. Les Américains ont pris soin que ces affaires seules soient toujours l'objet de leur gouvernement, en rejetant tout ce qui était héréditaire et en établissant leur gouvernement uniquement sur le système représentatif. Ceux qui ont dit qu'une république n'était pas une forme de gouvernement propre des pays d'une grande étendue ont d'abord erré en prenant les affaires d'un gouvernement pour une forme de gouvernement. Car la chose publique appartient également à une étendue quelconque de territoire et à la plus grande population. En second lieu, s'ils ont voulu dire la forme, ils ont sûrement entendu la simple forme démocratique qui existait chez les anciens, où la représentation était inconnue. La position pour l'heure n'est plus qu'une république ne saurait être grande, mais qu'elle ne saurait être fort étendue sous la simple forme démocratique. Et la question se réduit naturellement à ceci, quelle est la meilleure forme de gouvernement pour conduire la res publica, ou la chose publique d'une nation, lorsqu'elle est devenue trop grande et trop nombreuse pour la simple forme démocratique? Ce ne saurait être la monarchique, parce que la monarchique est sujette à une objection semblable à celle qu'on a faite à la simple forme démocratique. Il est possible qu'un individu pose un système de principes sur lesquels le gouvernement soit constitutionnellement établi dans une vaste étendue de territoire. Ce n'est là qu'une opération de l'esprit qui fait usage de ses pouvoirs. Mais la pratique applicable selon ces principes aux nombreuses et diverses circonstances d'une nation, à son agriculture, ses manufactures, son trafic et son commerce, demande des connaissances d'un genre différent et que l'on ne saurait puiser que dans les différentes parties de la société. C'est une collection de connaissances pratiques qu'aucun simple individu ne saurait avoir. C'est pourquoi la forme monarchique est aussi limitée dans la pratique utile à cause du manque de connaissances que la forme démocratique l'est à cause de la trop grande population. L'une par l'étendue dégénère en confusion et l'autre en ignorance et en incapacité, et toutes les grandes monarchies en fournissent la preuve. La forme monarchique ne saurait donc être un substitut de la forme démocratique parce qu'elle est sujette aux mêmes inconvénients. Elle le peut encore moins quand on la rend héréditaire. C'est de toutes les formes celle qui est la plus susceptible d'exclure la sagesse. L'esprit vraiment démocratique ne s'est jamais soumis volontairement à être gouverné par des enfants ou par des imbéciles, ni par toutes les nuances extravagantes de caractère qui accompagnent un système aussi stupide et qui fait la disgrâce et la honte de la raison et de l'homme. Quant à la forme aristocratique, elle a les mêmes vices et les mêmes défauts que la monarchique, excepté qu'il y a une plus grande chance d'y trouver plus de talent à cause du nombre de membres qui la composent. Mais néanmoins, il n'y a aucune sûreté qu'ils seront justement appliqués. En remontant donc à la simple démocratie originaire, elle nous fournira la vraie base sur laquelle on peut asseoir un gouvernement d'une vaste étendue. La simple démocratie n'est pas susceptible de s'étendre à cause de l'inconvenance de sa forme. Et la monarchie et l'aristocratie ne sauraient non plus convenir à un grand empire à cause de leur incapacité. En retenant donc la démocratie pour base et en rejetant les systèmes corrompus de la monarchie et de l'aristocratie, le système de représentation se présente naturellement, qui remédie en même temps au défaut de la simple démocratie quant à sa forme et à l'incapacité des deux autres quant aux connaissances. La pure démocratie était la société qui se gouvernait sans l'assistance de moyens secondaires. En greffant la représentation sur la démocratie, nous parvenons à un système de gouvernement capable d'embrasser et de réunir tous les différents intérêts, l'étendue du territoire et la population, quelque nombreuse qu'elle puisse être. Et cela avec des avantages aussi supérieurs au gouvernement héréditaire que la République des lettres est supérieure à la littérature héréditaire. C'est sur ce système que le gouvernement de l'Amérique est fondé. c'est la représentation greffée sur la démocratie. Sa forme est fixée sur une ligne égale, dans tous les cas, à l'étendue du principe. L'Amérique est en grand ce qu'était Athènes en miniature. L'une était la merveille de l'ancien monde, l'autre devient l'admiration et le modèle du monde présent. C'est la plus intelligible de toutes les formes de gouvernement et la plus éligible dans la pratique. Elle exclut à la fois l'ignorance et le peu de sûreté du système héréditaire et les inconvénients de la simple démocratie. Il est impossible de concevoir un système de gouvernement capable d'agir sur une si vaste étendue du territoire et d'administrer une aussi grande variété d'intérêts avec autant de célérité que peut le faire le gouvernement représentatif. La France, quoique très grande et très peuplée, ne forme qu'un point dans l'immensité de ce système. Il peut s'adapter à tous les cas possibles. Il est même préférable à la simple démocratie dans les petits États. Athènes, par la représentation, aurait surpassé sa propre démocratie. Ce que l'on appelle gouvernement, ou plutôt ce que doit être le gouvernement, n'est autre chose qu'un centre commun où aboutissent toutes les parties de la société. Cela ne saurait s'effectuer par aucune méthode plus conforme aux différents intérêts de la société que par le système représentatif. Il concentre les connaissances nécessaires à l'intérêt des parties et du tout. Il place le gouvernement dans un état de maturité parfaite. Il n'est jamais, comme nous l'avons déjà observé, ni jeune ni vieux. Il n'est sujet ni à l'enfance ni au radotage. Il n'est jamais au berceau ni à béquille. Il n'admet pas la séparation des connaissances et du pouvoir et se trouve supérieur, comme le gouvernement doit toujours l'être, à tous les accidents de l'homme individuel et conséquemment, il est bien au-dessus de ce que l'on appelle la monarchie. Une nation n'est pas un corps dont la figure peut être représentée par le corps humain, mais c'est un corps renfermé dans un cercle qui a un centre commun où aboutissent tous les rayons, et ce centre est formé par la représentation. Réunir la représentation avec ce que l'on appelle monarchie, c'est faire un gouvernement extravagant. La représentation est elle-même la monarchie déléguée d'une nation et ne saurait s'abaisser à la partager avec une autre. M. Burke s'est deux ou trois fois servi dans ses discours au Parlement et dans ses ouvrages d'un jargon qui n'offre aucune idée. En parlant du gouvernement, il dit « Il vaut mieux qu'il ait la monarchie pour base et le républicanisme pour correctif que le républicanisme pour base et la monarchie pour correctif. » S'il veut dire qu'il vaut mieux corriger la folie par la sagesse que la sagesse par la folie, je n'ai rien autre chose à lui répondre sinon qu'il vaudrait beaucoup mieux rejeter entièrement la folie. Mais quelle est cette chose que M. Burke appelle monarchie? Veut-il bien nous l'expliquer? Tout le monde entend fort bien ce que c'est que la représentation et qu'elle doit nécessairement renfermer une variété de connaissances et de talents. Mais quelle certitude y a-t-il que la monarchie possédera les mêmes qualités? Ou quand cette monarchie est un enfant, où est alors la sagesse? Que fait-il du gouvernement? Qui est alors le monarque? Et où est la monarchie? Si elle doit être représentée par une régence, cela prouve que c'est une farce. Une régence est une espèce ridicule de république et toute la monarchie ne mérite pas d'autre nom. C'est une chose aussi variable que l'imagination peut se la présenter. Elle n'a rien de la stabilité que le gouvernement doit posséder. Chaque succession est une révolution et chaque régence une contre-révolution. Le tout est une scène perpétuelle des cabales et des intrigues de la cour, dont M. Burke est lui-même l'exemple. Pour que la monarchie pût s'allier avec le gouvernement, il faudrait que le successeur de chaque monarque ne fût jamais enfant, qu'il vînt au monde à l'âge viril, qu'il fût un Salomon. Il est ridicule que les nations attendent et que le gouvernement soit interrompu jusqu'à ce que des enfants soient parvenus à la virilité. Soit que je n'ai pas le bon sens de voir, ou que j'ai trop d'esprit pour qu'on m'en impose, soit que j'ai trop ou trop peu d'orgueil, ou ce que l'on voudra, il est certain que ce que l'on appelle monarchie m'a toujours paru comme une chose folle et méprisable. Je la compare à quelque chose caché derrière un rideau, autour duquel il y a toujours beaucoup de fracas et un grand air de solennité, mais qui fait éclater de rire la compagnie lorsque, par accident, le rideau s'ouvre et qu'elle s'aperçoit de ce que c'est. Rien de pareil ne peut arriver dans le système représentatif. semblable à la nation, il possède une consistance perpétuelle de corps et d'esprit, et se présente sur le théâtre du monde d'une manière ferme et mâle. Quelles que soient ses perfections ou ses défauts, ils sont également visibles. Il n'existe pas par la fraude et par le mystère. Il ne fait pas usage de sophismes ni d'aucun jargon particulier. Mais il inspire un langage qui, passant successivement dans tous les cœurs, est senti et entendu. Il faut que nos yeux soient fermés à la raison, il faut que notre esprit soit singulièrement dégradé pour ne pas nous apercevoir de la folie de ce que l'on appelle une monarchie. La nature met de l'ordre dans tous ses ouvrages, mais c'est une forme de gouvernement contre nature. Elle renverse sans dessus-dessous les progrès des facultés humaines. Elle assujettit les hommes à être gouvernés par des enfants et la sagesse à être dirigée par la folie. Au contraire, le système représentatif est toujours conforme à l'ordre et aux lois immuables de la nature et répond en tout à la raison de l'homme. Par exemple, dans le gouvernement fédératif de l'Amérique, on délègue plus de pouvoir au président des États-Unis qu'à aucun autre membre du Congrès. C'est pourquoi il ne peut être élu à cette place avant l'âge de 35 ans. À cet âge, le jugement est mûr et l'homme a assez vécu pour connaître les hommes et les choses et le pays. Mais selon le plan monarchique, outre la multitude de chances qu'il y a contre ceux qui gagnent un lot à la loterie des facultés humaines, le successeur immédiat, quel qu'il soit, est mis à la tête de la nation et du gouvernement à l'âge de 18 ans. Est-ce là un acte de sagesse? Est-ce convenable à la dignité et au caractère mâle d'une nation? Où est la propriété d'appeler ce jeune homme le père du peuple? Dans tous les autres cas, un homme est mineur jusqu'à l'âge de 21 ans. Avant ce temps-là, on ne lui confie pas l'administration d'un seul arpent de terre ou d'un troupeau de moutons ou de cochons. Mais chose étonnante, à l'âge de 18 ans, on peut lui confier l'administration d'un peuple. Il est évident, au moins à moi, que la monarchie n'est qu'une farce, un simple artifice de cour pour se procurer de l'argent sous quelque point de vue qu'on puisse l'envisager. Il serait impossible, selon le système raisonnable du gouvernement représentatif, de faire monter les dépenses à des sommes aussi énormes que cette tromperie le fait. Le gouvernement n'est pas par lui-même une institution fort dispendieuse. Toute la dépense du gouvernement fédératif de l'Amérique, fondée, comme je l'ai déjà dit, sur le système de la représentation, et qui embrasse un pays presque 10 fois aussi grand que l'Angleterre, n'est que de 600 000 $ ou 3 240 000 livres tournois. Je suppose qu'aucun homme qui a le sens commun ne mettra aucun des rois de l'Europe en parallèle avec le général Washington. Cependant, en France, ainsi qu'en Angleterre, la dépense seule de la liste civile pour l'entretien d'un seul homme est 8 fois plus considérable que toute la dépense du gouvernement fédératif de l'Amérique. Il est presque impossible de donner une raison pour cela. La plupart des habitants de l'Amérique, particulièrement les pauvres, sont plus capables de payer les taxes que la généralité des habitants de la France ou de l'Angleterre. Mais le fait est que le système représentatif répand un si grand corps de lumière dans toute la nation sur le sujet du gouvernement qu'il dissipe l'ignorance et prévient la fraude. L'artifice des cours ne saurait agir sur cette scène. Il n'y a aucune place pour le mystère. Il ne peut s'accrocher nulle part. Ceux qui ne sont pas représentants connaissent aussi bien la nature des affaires que ceux qui le sont. L'affectation d'une importance mystérieuse serait bientôt découverte. Les nations ne sauraient avoir de secrets. Et les secrets des cours, comme ceux des individus, sont toujours leurs défauts. Dans le système représentatif, il faut qu'il paraisse toujours une raison pour tout. Chaque homme est propriétaire du gouvernement et pense que c'est une partie essentielle de ses affaires de le comprendre, et cela est de son intérêt parce qu'il s'agit de sa propriété. Il examine les dépenses et les compare avec les avantages. Et surtout, il n'adopte pas la coutume servile de suivre ce que dans les autres gouvernements on appelle les chefs. Ce n'est qu'en fascinant les yeux des hommes et en leur faisant croire que le gouvernement est quelque chose de merveilleux et de mystérieux qu'on peut obtenir des revenus excessifs. La monarchie est bien conçue pour obtenir ses fins. C'est précisément la papauté du gouvernement, une chose entretenue pour amuser les ignorants et pour les endormir sur les taxes. Le gouvernement d'un pays libre, à proprement parler, n'agit pas dans les personnes, mais dans les lois. La publication des lois ne coûte pas bien cher, et quand elles sont administrées, tout le gouvernement civil est rempli. Le reste n'est qu'une invention de la Cour.